Vous êtes sur RTL.
1h30.
RTL.
Salut, c'est Kevina. J'ai 16 ans, je suis célibataire endurci.
Bonjour, c'est Micheline ou Micheline.
Bonjour, c'est Mercedes Jeannine.
On n'est pas contente, c'est pour voler dans les plumes à la jante masculine.
Le journal inattendu.
Et vous, vous croyez où? On est ici à l'école de la République. On n'est pas sur un plateau de divertissement. À vos places, silence.
12h30, 13h30.
Je ne veux pas entendre une mouche voler.
Elise Moon, enfin déconfinée, est l'invité du journal inattendu sur RTL.
Je vous en supplie, s'il y a une bonne âme qui m'écoute, sortez-moi de cet enfer.
Bonjour Elise Moon.
Je me fais rire moi-même, pardon. Hein, c'est tellement mégalo. Que...
C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais on est nombreux à rire.
Moi, je suis tout seul.
Merci d'être aux commandes.
Merci Vincent. Super gentil de me recevoir.
Ah bah on est vraiment ravis de vous accueillir. Vraiment. À distance, c'est vrai, hein, en cette période particulière. Même si on peut sortir, on est nombreux à rester chez soi en ce moment. Alors, c'est l'occasion évidemment d'être avec vous. De regarder en VOD Duke Obu 3.
Hein. C'est l'occasion.
Qui, comme son nom l'indique, est la deuxième suite de Duke Obu, l'élève Duke Obu. Vous êtes
la troisième suite, hein, donc vous devez avoir un problème avec les chiffres.
Non, c'est la deuxième suite, puisqu'il y a eu une première suite.
Non, il y a eu deux suites.
Oui, il y a eu deux
suites. C'est le troisième. Bon, écoutez, je vais raccrocher Vincent. Parce que je pense que cette interview commence très mal. Vous n'êtes pas assez documenté.
Bon, vous êtes
désolé, je vous souhaite un excellent samedi.
Vous êtes toujours l'instituteur Gustave Latouche, quand même.
Oui, toujours.
Voilà.
Toujours.
Et surtout le réalisateur de ce film.
Ça, deuxième, c'est la première fois.
Troisième suite, c'est comme vous voulez. C'est aussi l'occasion de regarder les vidéos que vous avez postées pendant le confinement avec votre ami Franck Dubosc. Des vidéos qui nous ont rendu quand même un peu moins longs et pénibles cette période de mois sans sortir. Période dans laquelle vous êtes peut-être découvert, en vous regardant dans la glace, de petites pattes d'oie. Quelques ridules, que sais-je.
Un petit peu.
Ouais, parce qu'il y a bien une raison si vous avez invité un médecin esthétique.
Exactement. D'abord parce que c'est un ami, et puis parce que, alors j'aurais pu inviter un pépiniériste, j'aurais pu inviter un copain acteur. Je me suis dit que c'était original, et je me suis demandé comment tous les gens qui voulaient. Qui voulait paraître beau, qui voulait paraître un peu plus jeune, etc., avait vécu ces deux mois où finalement ils pouvaient pas s'occuper d'eux et où tout d'un coup le déconfinement libère certainement leurs angoisses, leur impatience.
On verra cela après 13h.
J'aimerais avoir son point de vue.
Eh ben, on l'aura et on l'attend avec impatience. Ce sera après 13h, émission rythmée par quelques-uns de vos choix musicaux. Vous chantez, vous également.
Oui.
Et puis ça s'achèvera par une surprise. Mais avant cela, Elise Moon, vous connaissez le principe de l'émission. Oui. Faut vous tirer le portrait maintenant. Mais oui, parlez de vous.
Allez, j'y vais.
Oui, c'est à vous.
Quand on acquit le petit Elise Moon à Paris, dans le 13e arrondissement, ce qui explique ses origines chinoises, ce siècle avait 63 ans. Je ne peux expliquer mon choix de devenir un humoriste que par un événement triste de ma vie, la mort de ma mère quand j'avais 11 ans. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Quand on est artiste, c'est pour combler une faille qui ne se comblera jamais. Voilà qui explique une certaine noirceur dans mon humour, mais on ne fait jamais rire avec le bonheur. C'est mon style, amuser le public avec ce qui à la base ne prête pas à rire, la mort, la maladie, la vieillesse, le racisme, la violence. Et c'est ma fierté aussi, je l'avoue, choisir des thèmes que personne n'ose choisir. Pour finir ce portrait, je ne sais pas si ça a fait une minute, mais bon,
je dirais que je
n'ai pas assez d'une minute pour me définir, mais que j'ai trouvé une formule, vive la vie.
Ah, ça c'est pas mal. Et puis surtout, on a une heure. On a une heure aussi pour vous définir et revenir sur ce que vous avez évoqué, cette noirceur qui finalement est votre principal atout pour nous faire rire. On est ensemble jusqu'à 13h30, Elise Moon. On commence par l'actualité de ce samedi. L'actualité, c'est ce premier week-end de déconfinement en France. Déconfinement mesuré, évidemment, 100 km maximum. Mais après deux mois sans trop bouger, nombreux sont ceux qui vont faire un tour en forêt, dans les parcs ou à la mer. Car sur le littoral, beaucoup de plages sont de nouveau ouvertes. On ira à Malo-les-Bains sur la côte d'Opale. Des vacances d'été en Italie, pas impossible. À Rome, le Conseil des ministres a décidé cette nuit de rouvrir les frontières italiennes à partir du 3 juin et d'annuler la quarantaine obligatoire pour les étrangers. L'objectif affiché, c'est la reprise du tourisme, bien sûr, mais aussi le retour des travailleurs saisonniers pour les récoltes. 5 ans de prison pour la chercheuse iranienne, franco-iranienne Fariba Abdelha. Elle a été condamnée ce matin par un tribunal de Téhéran. Elle peut encore faire appel. Son compagnon, qui avait d'abord été incarcéré avec elle, avait été libéré mi-mars. Un accord chez Amazon après la fermeture des 6 entrepôts sur décision de justice. Il devrait de nouveau fonctionner à partir de mardi. Et puis le retour du football en Allemagne. La Bundesliga est le premier championnat européen à reprendre cet après-midi, mais dans des conditions très particulières. Le temps, Valérie Quintin, on peut dire qu'il est de la partie pour ce premier week-end de déconfinement. Hein.
Pratiquement partout, oui. On a juste de l'instabilité orageuse dans le sud. Ça va être le cas d'ailleurs tout le week-end. Alors les orages ne sont pas trop répandus à l'heure qu'il est. La plupart, on les trouve en Méditerranée. Donc ça concerne principalement la Corse. Ça commence à déborder vers les Alpes-Maritimes, puis vers le Var. On a encore quelques résidus orageux également sur les Pyrénées. Ça restera donc passablement chargé et orageux entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée. Sachant que ce soir, entre la région PACA et la Maurienne notamment, il pourrait y avoir de très gros orages. Partout ailleurs, tout va bien. C'est du ciel bleu avec des températures relativement clémentes quand même. 18 degrés à Rouen et à Lille cet après-midi. 19 à Rennes, 20 degrés à Nevers, à Besançon, à Paris. 21 pour Grenoble et Bordeaux. 23 degrés à Marseille. Et malgré les orages, 27 degrés à Ajaccio.
Bravo. Et vous avez une température pour Dunkerque ?
Bon, pour Dunkerque, on est sur du 15-16 ce matin.
Du 15-16 ce matin, mais cet après-midi, ça va monter.
Le journal inattendu sur RTL.
Oui, parce qu'on attend jusqu'à 26 degrés cet après-midi à Dunkerque. C'est-à-dire sur la plage de Malo-les-Bains. Elle est immense, cette plage, a priori, donc pas de souci pour la distanciation sociale sur le sable. C'est l'occasion d'un grand bol d'air très attendu pour ce premier week-end d'après-confinement. Mais attention, pas question de bronzer, de se coller les uns aux autres ou de pique-niquer sur la plage. Antoine de Carnes, tout le monde respecte la consigne ?
Oui, que ce soit sur la digue ou sur le sable, on reste prudent ici. S'arrêter, faire bronzette est interdit. Mais pour les habitants comme Henri, l'essentiel était de retrouver la mer.
On revit. On a été 6 semaines enfermés et ça nous manquait. Franchement, c'est un bonheur, rien que de l'avoir.
Certains ont même décidé de s'y plonger. Les premiers amateurs de paddle ont retrouvé leurs sensations et les marcheurs aussi.
Les pieds dans l'eau pour la première fois depuis 2 mois, quel bonheur! J'irai pas encore me baigner, mais ça va pas tarder. C'est extraordinaire ce contact avec le sable mouillé, l'eau, et puis voir les gens sourire quand on les croise.
Je crains pas l'eau froide, ils doivent être à 14-15 peut-être. Je suis vraiment accro à la plage et c'est vrai que c'est agréable que ce soit ouvert.
Ouvert, oui, mais sous certaines conditions pour respecter la distanciation sociale. Sur la digue, un double sens de circulation a même été mis en place et pour Luc, il manque encore cet esprit vacances.
C'est pas encore tout à fait l'ambiance estivale, quoi. Ça manque de resto, ça manque de bar, mais c'est quand même une très bonne impression. C'est un très bon retour de déconfiner.
Des déconfinés qui goûtent au plaisir de retrouver enfin leur plage.
Antoine de Carnes sur les plages de Malo-les-Bains. Elles sont nombreuses, ces plages, à ouvrir sur la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée. Mais attention, pas partout. Dans les Bouches-du-Rhône, il faudra attendre fin mai et sans doute pour Marseille, début du mois de juin. Un week-end ensoleillé qui va sans doute donner des idées de vacances et les amoureux de la péninsule italienne peuvent de nouveau espérer. Puisque l'Italie va pouvoir accueillir des touristes étrangers à partir du 3 juin. Les frontières du pays seront ouvertes aux visiteurs de l'Union européenne qui n'auront pas respecté la quarantaine obligatoire jusqu'à présent. La décision annoncée à l'issue d'un long conseil des ministres cette nuit va permettre de faire revenir des dizaines de milliers de travailleurs saisonniers pour les récoltes, mais aussi bien sûr les touristes des autres pays d'Europe si les restrictions y sont levées. Anne Lenir, vous êtes à Rome pour RTL.
Oui, c'est une bonne nouvelle pour ce secteur qui représente plus de 13% du PIB national. L'Italie a accueilli 93 millions de vacanciers étrangers, dont 13 millions de Français très attirés par les richesses culturelles et artistiques, notamment à Rome, en Vénétie et en Sicile. Mais le tourisme a déjà brûlé 20 milliards d'euros en 2 mois, d'où la décision de rouvrir les frontières dès le 3 juin et sans imposer de quarantaine. Reste à savoir qui pourra retrouver les splendeurs et délices de la péninsule. Pour le moment, l'Allemagne et l'Autriche considèrent l'Italie comme un pays à risque de contamination au coronavirus. Par ailleurs, le gouvernement de Giuseppe Conte précise, par prudence, que cette mesure pourrait être revue si la courbe épidémiologique, sous contrôle depuis plusieurs semaines, repartait à la hausse.
Anne Lenir, en Italie pour RTL. Du coup, est-ce que vous avez des fourmis dans les jambes, Elie Semoun ?
Écoutez, j'ai la chance d'avoir un jardin, donc en fait, j'ai pu bouger. Enfin, en même temps, j'ai fait 500 fois le tour de mon jardin. J'avais une pince à épiler.
Vous avez une pelouse impeccable.
Les herbes.
Ouais,
comment
oui. Votre pelouse est impeccable.
La pelouse est impeccable. Donc, j'avoue que je ne suis pas très parano, je ne suis pas hypochondriaque. Donc, j'ai un peu bougé. J'ai pu aller à Lyon voir mon papa dans son EHPAD.
Ouais, on en parlera.
Je ne suis pas très, très méfiant. Et je me dis une chose, alors peut-être ça va choquer tout le monde, mais j'ai presque envie de choper ce truc pour en être débarrassé.
Ouais.
Mais je dis ça avec prudence parce que je sais qu'il y a des gens qui en ont souffert, il y a des gens qui en sont morts. Donc, au bout d'un moment, on parlera peut-être des gestes barrières, ça me semble assez impossible à respecter. À la lettre.
Ouais, j'imagine. Bah, on va en parler tout à l'heure. J'ai quand même deux infos avant de marquer la pause de pub. Chez Amazon, tout d'abord, accord trouvé avec les syndicats pour la réouverture des entrepôts. Ce sera à partir de mardi prochain. Le géant du commerce en ligne avait dû les fermer après deux décisions de justice. Et puis ça va mal pour le groupe Alinéa, l'enseigne de décoration d'ameublement. Une trentaine de magasins en France, elle a été placée en redressement judiciaire. Et puis la grande question, le vaccin, c'est pour quand? Eh bien, la ministre de la Recherche, Frédéric Vidal, table sur 18 mois. Il est pas raisonnable, dit-elle, de penser qu'on puisse aller plus vite. Je vous rappelle que Donald Trump, lui, a dit hier qu'il espérait un vaccin à la fin de l'année ou peut-être avant. Allez, on marque une courte pause et on retrouve le journal inattendu d'Elysée Moon. Tout de suite.
Ensemble.
Le journal inattendu d'Elysée Moon avec Vincent Parisot sur RTL.
L'actualité, c'est aussi la chercheuse anthropologue franco-iranienne Fariba Abdelhak qui a été condamnée à 5 ans de prison en Iran pour collusion en vue d'atteinte à la sécurité nationale. Elle a aussi écopé d'une peine d'un an pour propagande, mais elle devra seulement purger la peine la plus longue. Ces condamnations peuvent encore faire l'objet d'un appel. Son collègue, compagnon, Roland Marchal, arrêté comme elle en juin 2019, avait été libéré à la fin mars dans le cadre d'un échange avec un Iranien menacé d'extradition vers les États-Unis. Alors écoutez la réaction de la chercheuse au CNRS, Béatrice Ibou. Elle est surtout une amie très proche de Fariba Abdelhak. Elle est avec Christophe Decroix.
C'est dur, c'est terrible, mais d'un autre côté, on s'y attendait, malheureusement. Parce que vous savez qu'elle avait fait l'objet de propositions de libération conditionnelle, mais à des conditions inacceptables pour elle, parce que ça voudrait dire qu'elle renonçait à la reconnaissance de son innocence et qu'elle renoncerait à son métier. L'avocat va faire appel et en appel, en Iran, la condamnation ne peut être jamais supérieure à ce qui a été décidé en première instance. Donc là, on a un petit espoir. Et puis une seconde chose, souvent, les peines effectives sont moindres et qu'au bout d'un tiers ou de la moitié du temps, la personne est libérée.
Voilà, donc la chercheuse est proche de Fariba Abdelhak, Béatrice Ibou, avec Christophe Decroix. Et puis dans l'enquête sur le génocide rwandais, l'un des derniers principaux accusés encore en fuite, recherché par la justice internationale, a été arrêté près de Paris, 25 ans après la tragédie. L'homme d'affaires Félicien Kabouga a été interpellé à Asnières, dans les Hauts-de-Seine, où il résidait sous une fausse identité. Il est notamment accusé d'avoir créé une milice qui s'est révélée le principal bras armé du génocide de 94. Selon l'ONU, il a fait 800 000 morts. Et puis, Elysée Moon, vous aimez toujours autant le football?
Oui, je suis pas un grand. Alors, si vous me posez des devinettes, des questions pièges sur le foot, je vous avoue que je serais nul. Mais oui, j'aime ça.
C'est vrai, vous aimez. Alors, vous allez peut-être suivre la Bundesliga cet après-midi.
Vous aimez ça, vous?
Moi, j'adore.
Ah, oui, vous adorez, d'accord.
Oui, j'adore le foot. Et le foot reprend ses droits, mais en Allemagne.
En Allemagne, oui. Et je sais que le monsieur Lionel, là, il n'est pas content. Là.
Ah oui, vous voulez parler de Gérard Rouillet.
J'ai entendu ça.
Oui,
voilà,
il parle d'un complot PSG-OM avec l'État complice contre l'Olympique Lyonnais. Oui, alors on n'en est pas là. On était là pour parler de l'Allemagne qui retrouve les stades après des semaines de confinement. Mais dans des conditions très particulières, les coups d'envoi seront donnés cet après-midi, Yannick Holland, dans des stades vides.
Et oui, et je me trouve devant le Wildparkstadion de Karlsruhe qui reçoit Darmstadt dans 15 minutes. C'est vraiment le trouble, premier match de reprise. Là, on est en Zweite Bundesliga, la Ligue 2 allemande. Match à huis clos, la police bloque tous les accès du stade et les groupes d'ultra ont même recommandé à leurs membres de surtout ne pas venir, ne pas vivre un match à huis clos comme le PSG en Ligue des Champions. La Ligue de foot allemande a prévenu, s'il y a un rassemblement devant le stade, le match pourrait être annulé. Du coup, c'est vraiment le désert ici, très loin de l'ambiance des stades allemand habituel. Anthony Weissmuller est un supporter français de Karlsruhe, un peu mitigé pour cette reprise.
C'est une habitude qu'on a tous les week-ends, on va au stade, on regarde le match, il y a des déplacements, la semaine, il y a d'autres matchs. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une vie qui tourne un peu autour du foot. Et maintenant, pour la reprise, je reste un peu mitigé. Alors d'un côté, j'étais super content que ça reprenne quand on l'a appris. Et de l'autre côté, je me dis, on voit un petit peu les règles qu'ils essayent de mettre en place, ne pas célébrer collectivement, les matchs vont forcément à huis clos. Bah, disons que c'est une ambiance à l'allemande, c'est sûr, les matchs à huis clos, c'est toujours particulier. Déjà qu'on est dans l'impression de voir un match de district, où, donc ça fait vraiment bizarre et c'est dommage.
Voilà, alors les supporters allemands ont quand même trouvé la solution pour vivre ensemble les prochains matchs. Ils vont organiser un autokino, ce sont des cinémas en plein air, où on vient en voiture, projection du match, sonner à chaque but.
Avec quelques difficultés techniques, mais on a compris, un drive-in football en Allemagne. Alors, Elie, bon, si vous n'allez pas au stade, je me dis quand même que ces 8 semaines de confinement ont dû être assez longues pour vous, comme pour votre ami Franck Dubosc. Tenez, écoutons ça.
Bah, bonjour, moi je m'appelle Émile et puis ça c'est mon frère Louis. Bah, c'est pour dire que pour nous, bah, le confinement c'est dur, hein, parce que ça fait 2 mois qu'on n'a pas
baisé,
discuté avec des jeunes filles. En plus, nous on vit dans une ferme, alors on a des poules à
baiser,
mourir. Bon, merci le milieu hospitalier, les infirmières, on voudrait vraiment les
baiser,
féliciter.
Voilà.
Bah, on vous fait des gros
baisers.
Ouais.
Voilà, c'est, vous leur faites
etc,
des
etc.
etc. Vous leur faites des gros baisers, hein, ça
oui,
c'est
des
sûr.
Gros baisers.
Au personnel hospitalier. Comment ça s'est passé d'ailleurs avec Franck, cette idée de poster alors, des vidéos?
Écoutez, on a une grosse frustration, nous, les gens de scène. Mmh. Moi, ma tournée s'est arrêtée en plein vol. Donc, notre nouvelle scène, c'est devenu Instagram, mmh. les réseaux sociaux. Et on s'est dit, évidemment, en toute modestie, on a peut-être une utilité dans cette période étrange, c'est de faire rire les gens, de leur faire oublier leurs soucis, etc. Et on a été en quelque sorte récompensés, puisqu'on a tout d'un coup eu beaucoup plus d'abonnés, plein de messages joyeux, etc. Donc on s'est téléphoné.
Ça cartonnait, ça permet de garder le lien surtout avec le
exactement.
Public.
Exactement. Moi qui étais un peu réticent avec les réseaux sociaux, en me disant que finalement la solitude, elle est encore pire quand on est sur les réseaux sociaux. Ben non, en fait, ça a été un lien indispensable pour nous, parce que vous pouvez pas imaginer la frustration qu'on a quand on est un homme de scène, que de devoir rester chez soi pendant 2 mois, c'est pas possible.
Bien sûr, surtout quand la tournée, quand les spectacles sont annulés. Alors, vous nous avez fait rire, vous nous avez donné aussi quelques conseils d'apiculteurs avec vos abeilles.
Alors là, on vient de trouver une cellule royale dans laquelle il y avait sûrement une reine. Elle s'est tirée, donc on va l'enlever. Et dans cette ruche, on va sûrement mettre une nouvelle reine, parce qu'il n'y en a plus. Donc là, nous allons mettre cette reine, celle qui a le cul bleu, là. On va la mettre dans la ruche.
Donc voilà, on sait qu'elle a le cul bleu, votre reine.
Elle a le cul bleu. Non, en fait, elle a été colorée par les apiculteurs pour pouvoir la reconnaître.
Bon, en tout cas, ce sont de vrais tutos que vous nous donnez sur votre Facebook.
Oui, c'est des vrais tutos. Ouais. J'explique, en fait, dans mon jardin, j'ai la chance d'avoir des ruches. Ne faites pas ça si vous êtes en appartement.
Ah, non.
J'ai des ruches et en fait, il y a quelques semaines, c'était la période de l'essaimage. C'est-à-dire qu'une nouvelle reine part avec la moitié de la ruche pour créer un nouvel essaim. Les abeilles font ça depuis des millénaires. Mmh. Et donc, pour empêcher l'essaimage, parce que quand même, j'habite pas... j'ai des voisins.
Ouais.
On a décidé d'enlever la reine et de mettre une autre reine qui est moins essaimeuse. Et donc, voilà.
Et qui partira,
je crois que ça a passionné
les gens.
Pas.
Oui, oui, bien sûr,
exactement.
C'est passionnant. On a même une question, figurez-vous, d'Alain Bougrain-Dubourg, qui était à votre place ici, même la semaine dernière. On l'écoute.
Bonjour Elie Semoun, c'est Alain Bougrain-Dubourg. D'abord, je voudrais vous dire mon admiration. Et ensuite, je crois que vous vous passionnez pour les abeilles, les ruches. Est-ce qu'il ne faut pas mettre en garde maintenant les uns et les autres par le trop grand nombre de ruches qu'on met ici ou là et qui pourraient concurrencer les abeilles sauvages, celles qui ne sont pas domestiquées comme les vôtres?
Alors, alors, voilà la question.
Réponse. Oui. Je suis pas un grand spécialiste, mais les abeilles ne sont pas domestiquées. C'est-à-dire qu'elles ont. Moi, je les ai pas élevées à me ramener le journal.
Elles
le
ne
matin.
Vous obéissent pas.
Non, elles m'obéissent pas. Donc, je crois que c'est une espèce en voie de disparition et que c'est vraiment chouette de mettre des ruches partout parce que bientôt il y a le frelon asiatique qui va attaquer les abeilles. Qui vient de Chine. Ouais. Alors, j'ai rien contre les Chinois,
non,
enfin,
mais
ils nous emmerdent. Hein. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment menacées. Ouais. Donc, il faut tout faire pour les protéger.
Voilà, et ça, vous nous le dites même dans vos spectacles. Par exemple, à partager en 2015.
Je suis le seul comique français apiculteur. Hein. Je sais que tout le monde s'en branle, mais enfin bon, c'est ma petite fierté. Un jour, j'ai lu un article qui disait que les abeilles étaient une espèce en voie de disparition. Je me suis dit, il faut que je les sauve. Franchement, que j'avais pas lu un article sur les migrants.
Voilà. À tout de suite avec vous, Elise Moon, dans ce journal inattendu, avec votre ami Ducobu. À tout de suite.
Aujourd'hui, sur Citroën.fr. Le journal inattendu d'Elise Moon, avec Vincent Parisot sur RTL.
Sol, la, fa, sol, la, mi, sol, fa, mi, fa, do, fa. I'm sorry, mademoiselle, mais je suis amoureux.
Vous avez de la chance.
Je fais ce que je peux. Ah, la, la, la.
Évidemment, vous avez reconnu
Jane Kelly
dans Andy, ouais. Les Demoiselles de Rochefort.
Ah,
c'est l'un
ouais.
de vos
Qu'est-ce
choix.
Que j'aime ce film. Ouais.
Vous avez... Alors, c'est pour le film ou c'est pour Jane Kelly? C'est pour la chanson?
Oh, j'adore les comédies musicales. Ouais. Vraiment, je suis fan de ça. Je trouve que ça a un côté suranné. Quand je les vois, je suis un peu nostalgique. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette époque qu'on n'a jamais connue, où les gens étaient bien habillés, où ils avaient des beaux sentiments, où ils chantaient bien, où ils dansaient bien. Et les Demoiselles de Rochefort, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et Jane Kelly est mon idole, Fred Astaire aussi, évidemment.
Vous leur avez emprunté quelques trucs pour la scène, notamment.
Oui, un truc, mais vraiment, en toute modestie, je faisais une entrée sur scène où je sautais sur une chaise et j'appuyais mon pied droit sur le dossier et je retombais comme ça.
Ouais.
Donc ça, j'avais vu ça dans son sous la pluie.
Les Demoiselles de Rochefort, ça nous montre aussi que vous êtes un grand romantique.
Oui. Ouais. Je l'assume.
Voilà.
Je l'assume. J'ai même fait des disques où c'était que des chansons d'amour au premier degré. Mmh. Alors, vous voyez, on peut passer d'une grande noirceur à une grande...
romantisme, et puis évidemment, au rire, parce que je ne sais pas si vous êtes romantique dans Ducobu.
Pas vraiment.
Non, hein, on peut pas vraiment
pas
dire
vraiment.
Que l'instituteur que vous jouez soit
vraiment un
romantique. Vous êtes passé derrière la caméra pour ce troisième Ducobu. C'était une première, d'ailleurs, pour vous?
Oui, c'est la première fois, même si j'avais déjà réalisé quelques pubs, un peu les petites annonces, mais oui, c'est la première fois, mais vous savez, c'était très naturel, c'était pas comme si j'avais fait le grand écart. Je suis comédien, diriger des acteurs, je sais comment ça marche. J'adore les enfants, j'adore leur univers, j'adore leur folie, j'adore leur lâcher prise. Donc, et puis je connais bien l'univers de Ducobu, donc tout était logique.
Et le public
a suivi, les choses se sont faites très très naturellement.
Ouais. 1 400 000 entrées et la bande-annonce pour nous.
460 000 s'il vous plaît.
Ah, 460 000, j'en
Attention,
avais oublié 60 000.
Ouais. Je suis pour l'instant le film français qui a fait le plus d'entrées.
La bande-annonce.
On ne peut pas entendre une mouche voler.
Le roi de la triche est de retour.
6 x 7.
6 x 7, 42.
7 x 7.
49.
J'en étais sûr.
Il changera jamais.
Sa mission ?
Saint Potter s'est condamné à la ruine.
Sauver son école.
J'ai une immense nouvelle pour toi. Tu veux remporter une jolie cagnotte pour ton école ?
Le lion est mort ce soir.
On l'a sauvé !
Ducobu change d'école ?
Ducobu va sauver Saint Potter.
Votre fils est un génie.
En cancrerie ?
Non, en chant.
Ce n'est pas Maître Beams, mais il faut avouer qu'il a un joli petit brin de voix.
C'est une star, mon pote!
Vous devez le chouchouter! Le chouchouter!
Humiliation.
Enfin,
Enfin, si je sens quelques sales migondis, je serai impitoyable, implacable, féroce.
Tout en restant dans les limites des lois de la République.
Voilà. 1 460 000 entrées. Et puis, alors, j'imagine de nombreuses vues également, puisque c'est en VOD.
J'imagine, je sais pas, je sais que vous avez reçu, je sais pas si c'est vous qui avez reçu Mela, la sœur de Ramzi.
Oui, tout à fait.
C'était vous, hein. Oui, je vous avais entendu. Eh bien, elle avait l'air de dire que.
Ça marchait très fort.
Ça marchait très bien. Alors, moi, je peux pas vous le dire, c'est trop tôt.
Vous n'avez pas les chiffres.
Je crois que c'est chouette.
Bon,
je
alors,
crois que c'est
si
chouette, mais c'est un film tellement familial que. C'est idéal.
À voir en VOD. Si vous n'avez pas les chiffres, ça veut dire que vous n'étiez pas bon au calcul. Vous étiez vous-même un cancre à l'école, comme du
Covid. Honnêtement, j'étais, on va dire, j'étais sur le fil. Hein, j'étais entre les deux. J'étais entre Mademoiselle Gratin, qui est la première de la classe, et du Cobu.
Ça passait limite à chaque fois, finalement.
Limite. Alors ma maman était prof de français.
Ouais.
Quand elle est décédée, tous les profs m'ont pris sous leur aile.
Ouais.
Donc c'était pas mal, j'avais un bon statut, le statut d'orphelin de mère, prof de français, c'est pas mal.
Ouais, ça peut
ça
aider.
Permet de faire plein de bêtises et d'être pardonné tout le temps.
Allez, on va faire une courte pause, rappeler l'actualité, évidemment, et puis ensuite, accueillir votre invité. Je vous rappelle qu'on va parler médecine esthétique avec vous. Ça, c'est étonnant. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
J'y vais.
Il est 13h.
Le journal inattendu d'Elie Semoun.
13h, les titres de l'actualité. Vincent Parisot.
Et à la une, le premier week-end de déconfinement en France. Déconfinement mesuré, pas plus loin que 100 km. Mais après 2 mois sans trop bouger, nombreux sont ceux qui vont faire un tour aujourd'hui en forêt, dans les parcs ou à la mer. Car sur le littoral, beaucoup de plages sont de nouveau ouvertes. Attention, pas dans les Bouches-du-Rhône, où il faudra attendre fin mai et même début juin pour Marseille. Peut-être même des vacances d'été en Italie. Pas impossible, en tout cas, à Rome, le Conseil des ministres a décidé cette nuit de rouvrir les frontières italiennes à partir du 3 juin et d'annuler la quarantaine obligatoire pour les étrangers. Objectif affiché, la reprise du tourisme, mais aussi le retour des travailleurs saisonniers pour les récoltes. 5 ans de prison pour la chercheuse franco-iranienne Fariba Abdelha. Elle a été condamnée ce matin par un tribunal de Téhéran. Elle peut encore faire appel. Son compagnon, tout d'abord incarcéré avec elle, avait été libéré à la mi-mars. Un accord chez Amazon après la fermeture de 6 entrepôts sur décision de justice. Il devrait de nouveau fonctionner à partir de mardi. Et puis le retour du football en Allemagne. La Bundesliga est le premier championnat européen à reprendre cet après-midi, mais dans des conditions très particulières et dans des stades vides. Et puis le temps qui va rester très ensoleillé cet après-midi sur une grande partie du pays. Seules les régions les plus au sud, entre les Pyrénées, les Alpes et la Méditerranée, vont connaître, disons, un début de soirée orageux, notamment en région PACA. Les températures seront comprises entre 15 et 26 du Pas-de-Calais à la Corse. Il fera 20 degrés cet après-midi à Paris comme à Toulouse.
Bonjour, c'est Jeannine. C'est un message qui s'adresse au corps médical.
Bonjour, docteur. J'enlève ma culotte.
On n'est pas contente. On est furibarde. Ça va ruer dans les pancartes. Il y a 15 jours, on s'est fait tirer par le docteur Bénichou.
Et toute son équipe.
Et voilà le résultat. Ma Jeannine, on dirait un zodiaque.
Une piscine gonflable.
Oh, Bénichasse, tu m'avais promis des pastèques brésiliennes. Elles sont où? Elles sont restées à Cuba?
Che Guevara, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
C'est quoi ce boulot de gougnafier, Bénichasse? Je vais te refaire la gueule. Moi aussi, je sais l'hyposucer. En tout cas, tu toucheras pas ma caverne d'Ali Baba pour y mettre ton botox.
Voilà, on a compris. Jeannine et compris. Mercedes. Elie Semoun, évidemment, avec votre ami Franck Dubosc.
Ah oui.
Vous moquiez de la chirurgie esthétique à ce moment-là.
Ah bah oui. Mmh. Bah oui.
Non, non, mais je dis ça parce que c'est... lorsque vous nous avez dit, je voudrais.
Ah, ça vous a étonné?
Oui, ça m'a étonné.
Mais en fait, c'est quelque chose qui me fascine en fait, ces gens qui veulent, ces femmes en fait, qui courent après leur jeunesse et qui se font refaire les lèvres alors que ça se voit et que dès qu'elles ont le dos tourné, tout le monde se fout de leur gueule. Mmh. Mais j'ai rencontré un Nathanaël qui est un bon ami et qui a de l'humour aussi et qui sait très, enfin c'est pas un gougnafier en tout cas. Voilà, c'est pas c'est pas un garagiste, mais c'est intéressant ce qu'il raconte. Je pense
on va voir. Bonjour Nathanaël Aknin.
Bonjour.
Voilà, vous êtes médecin esthétique ou chirurgien esthétique? Est-ce qu'il y a une différence tout d'abord?
Alors il y a une différence, mais je ne suis ni l'un ni l'autre. Moi je suis le directeur de la clinique Lutetia.
Ouais.
Et donc j'ai une dizaine de médecins qui travaillent ici. dans différentes spécialités.
Donc ils ne font pas de la chirurgie, c'est ça ?
Voilà, c'est la petite subtilité. Mmh. Alors, la différence entre la médecine et la chirurgie esthétique, c'est que ici, vous êtes en ambulatoire, on ne coupe pas au bistouri, on a vraiment des soins qui sont très légers et qui vous permettent de reprendre une activité tout à fait normalement, quasiment immédiatement après vos soins.
Bon, alors prenons un exemple, je ne sais pas. Tiens, Elise Moon, par exemple. Qu'est-ce que vous lui referiez à Elise Moon ? Qu'est-ce que vous lui conseillez ?
Attention, si tu dis le nez, hein, je t'attaque pour antisémitisme.
Oui, ça, c'est sûr.
Fais gaffe. Hein.
Qu'est-ce que vous lui conseillez ?
Non, il est parfait, Elie, mais
les cheveux, ça, peut-être, les cheveux.
Au-delà de ça, j'ai fait un complexe. Liste. Peut-être qu'on peut, on peut passer à la page 3.
Non, mais c'est intéressant ce que dit Elie sur les cheveux, parce qu'il dit qu'il a un complexe.
C'est un complexe masculin, enfin, ouais. Excusez-moi Vincent, je ne veux pas retourner le couteau dans la plaie.
Non, mais vous me faites du mal en même temps. Oui.
Voilà, je vous fais du mal, parce qu'il faut expliquer aux auditeurs que
j'en
Vincent,
ai pas un sur le caillou.
Il n'en a pas un sur le caillou. Mais est-ce que ça a été un complexe pour vous ?
Non. Alors là, non, pas du tout. Mon papa était comme ça très jeune, c'est de famille, d'accord. On l'entretient et okay. Non, c'est pas du tout un complexe.
Eh ben, je crois que c'est le complexe number one des hommes, et je sais pas Nathanaël qui me contredira.
Nathanaël, c'est vrai que c'est vraiment la raison pour laquelle les hommes viennent vous voir en premier.
C'est la raison numéro un aussi parce que la Maison Lutetia, c'est le plus grand centre d'implantation capillaire en Europe. Mmh. Donc on a des gens qui viennent pas seulement des quatre coins de la France, mais du monde entier. Un petit peu moins depuis la crise, mais la crise a révélé à beaucoup de gens, à travers leurs réunions Zoom, les petites imperfections qu'ils voulaient changer.
Vous voulez dire que les gens ont eu plus de temps pour se regarder dans le miroir ?
Ils ont eu tout le temps qu'il fallait.
Ouais, ouais. Et pour plus. Se dire, là, finalement... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sans passer par la chirurgie ? Parce qu'évidemment, la chirurgie, ça fait peur, l'anesthésie et tout ce qui va avec.
Alors, les implants capillaires avec la méthode qu'on utilise, ça ne relève pas de la chirurgie. Donc, c'est un acte qui vous permet de faire en milieu de la journée les implants qu'il vous faut et de rentrer chez vous le soir. Mais vous avez aussi plein d'autres soins qui vous permettent de peut-être faire juste un soin du visage pour lisser les quelques imperfections que vous pouvez avoir. Ça peut être des boutons, des cicatrices d'acné. Ça peut être, comme Elie le disait, en toute subtilité par contre chez nous, de repulper un petit peu les lèvres, de reprendre un petit peu les volumes. Il y a des techniques maintenant qui permettent d'avoir un effet tenseur sur la peau. En fait, ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde actuel, on a énormément de gens qui se sentent encore en pleine forme et qui ont toute l'énergie nécessaire pour être les plus performants au travail, mais qui doivent faire face à la nouvelle génération qui arrive petit à petit et qui menace peut-être...
Oui, mais j'ai envie de dire, c'est de la triche, quelque part.
Oui.
En fait... Nous, on le voit pas de cette façon, et la plupart des gens qui viennent ici ne le voient pas de cette façon non plus, simplement parce que ce sont des remèdes qui sont un peu qui se basent sur ce qu'on fait naturellement. Par exemple, l'acide hyaluronique qu'on utilise pour redonner du volume, c'est un élément qu'on a naturellement dans la peau. Et simplement on en refait une petite dose pour reprendre un petit peu d'hydratation ou de volume sur quand c'est nécessaire.
C'est quoi le pourcentage de femmes et d'hommes ?
Alors, étrangement, on a énormément d'hommes ici à la Maison Lutetia.
Vous voyez, vous ne parliez que des femmes avec des becs de canard, mais...
Vous savez quoi ? Dans deux semaines, vous allez me voir comme ça.
C'est vrai, mais sérieusement, Elie, vous n'avez jamais rien fait ?
Non.
Et vous n'avez pas envie de faire quelque chose, même pour vos cheveux ?
Les cheveux, ça me travaille.
Ah, ça coûte cher les cheveux, Nathalie Lacnine ?
Alors ça, j'en sais rien. Alors ça dépend, entre une petite implantation et une implantation comme ce que vous devriez faire, j'ai regardé la photo. Hein.
ça va vous parlez de moi, Vincent. Je croyais que vous parliez des lits.
À mon avis, c'est le maximum. Non, non, on parle de vous, Vincent.
Ah non, moi c'est la complique.
On peut faire une reprise de votre véhicule. Et,
c'est ça, j'en ai pour deux voitures. merci beaucoup en tout cas, Nathalie Lacknin, et merci en tout cas d'être avec vous. Je vais vous laisser vous occuper d'Elie Semoun, mais dans un instant on va parler de vous, Elie. Avant ça, je voudrais vous faire un petit cadeau parce que je sais que vous adorez. C'est Henri Salvador de son dernier album Chambre avec vue. Il fait dimanche.
Il fait dimanche quand tu souris. Et par les persiennes baissées, un rayon de soleil rougit les murs de notre nid douillet. Il fait dimanche au bord de l'eau.
Il fait dimanche, Henri Salvador. Chanson. Et c'est, alors, c'est incroyable parce que bon, c'est de la bossa nova. Vous avez fait aussi un album de bossa nova.
Oui, j'en ai même fait trois. Et j'ai eu la chance dans mon deuxième album d'avoir une mélodie de Henri Salvador. Qui était, c'est lui d'ailleurs qui m'a donné, m'a donné envie de faire ça. Un soir, j'ai été le voir en studio. J'ai chantonné une de ses chansons. Il s'est retourné vers moi. Il m'a dit, ah, mon pote, t'as une belle voix, tu devrais chanter. Et après, il m'a conseillé. Il était venu me voir jouer à l'Olympia. Il m'avait dit, ah, tu devrais faire les deux, faire rire et chanter. Ouais. Alors je l'avais écouté. Et en fait, je crois que c'était un mauvais conseil pour moi parce que. On peut pas prendre les gens en otage, c'est-à-dire on peut pas leur faire un humour saignant comme je fais et après chanter des chansons d'amour au premier degré, c'est très bizarre.
Ouais, parce qu'on a une étiquette qui vous est collée sur le dos.
Je vais pas m'en plaindre. J'ai ce don, j'espère, je parle en toute modestie, de faire rire les gens, mais il faut pas mélanger les registres. Enfin, je les ai mélangés. Parce que je suis très éclectique et que je l'ai fait, mais c'est compliqué quand même.
Bon, on va voir si c'est vraiment compliqué dans un instant. Dans D'accord. ce journal inattendu d'Elie Semoun, à tout de suite.
Il fait dimanche quand tu souris.
RTL, le journal inattendu.
Fiat.
RTL. Le journal inattendu d'Elie Semoun, avec Vincent Parizeau sur RTL.
Au revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Au revoir Paris, et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard.
Benjamin Biolay, qu'on avait reçu d'ailleurs dans ce journal inattendu. Revoir Paris, un autre de vos choix musicaux. Elie Semoun, c'est pour Biolay ou c'est pour Trainé?
Les deux. J'ai une passion pour Trainé et une grande admiration pour Benjamin Biolay. C'est lui aussi, indirectement, avec Keren Ann, qui m'ont influencé, qui m'ont inspiré pour écrire mon premier album.
Oui, à travers.
C'est la même famille.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ils avaient travaillé sur l'album
d'Henri
Salvador, Chambre avec vue.
Tout à fait.
Donc, vous nous avez rappelé que vous aussi, vous chantez.
Oui.
Elle était étendue sur le canapé lit, les yeux clos, presque nus, ravalée Debussy. Ses effets relevés, l'éclat blanc d'un tissu, d'un courant d'air l'été, retire le superflu.
Ravel et Debussy, ça c'était votre album Des paroles en l'air, sorti il y a 2 ans. Alors vous nous avez bien expliqué que c'était compliqué à la fois d'être reconnu comme un humoriste.
Un peu.
Et en même temps de j'allais dire de mener une carrière parallèle finalement.
Oui, complètement. Hein. Mais vous savez, j'ai fait la même chose. Enfin, j'ai sorti un bouquin sur mon jardin, par exemple. Ouais. C'est pareil, le milieu des pépiniéristes, des jardiniers, etc. Ils m'ont regardé avec un drôle d'air.
Qui sait,
et puis finalement, Oui, et finalement, quand ils ont lu le livre, voilà, j'ai été pris au sérieux. C'est pareil pour la musique. Mmh. Il faut faire ses preuves, plus que les autres.
Alors, par contre, ça nous renvoie à la Ravel et Debussy à votre passion, parce que vous avez une vraie passion, le classique, l'opéra.
Oui.
Vous pouvez aller à l'étranger pour aller voir un opéra.
Je vais même jusqu'à Bayreuth. Bayreuth qui est en Allemagne, en fait c'est le festival de Bayreuth, parce que j'ai une passion pour Wagner. Ouais. Alors vous me direz que je suis pas rancunier, hein, parce que c'est un gros antisémite, un des plus gros que la terre ait porté. Mmh. Mais peu importe, vous savez, moi je fais la différence entre l'artiste et l'homme. Mmh. Et donc, c'est une phrase un peu dangereuse, hein, évidemment. Mmh.
Oui,
parce que
bah, surtout
tout d'un coup,
moment,
je pense à Polanski.
Bah, voilà, je l'avais sur le bout de la langue,
ouais,
hein, Polanski.
Ouais, bah, voyez,
et donc, vous faites la différence entre l'artiste et l'homme.
Oui. J'avoue. Tant pis si je vais me prendre des foudres.
Bah, ça risque.
Mais ça risque. Mais bon, alors Wagner, il est mort depuis longtemps, donc je peux dire ce que je veux. Mmh. Mais oui, j'ai une grande passion. J'y vais chaque année. Alors évidemment, pour moi, l'œuvre de Wagner, la tétralogie en tout cas, qui est la Valkyrie, Siegfried, le Crépuscule des Dieux, j'ai du mal à exprimer ça parce que en fait, c'est toutes les émotions réunies.
Ouais.
Voilà. La musique, ça me donne on peut avoir des orgasmes musicaux.
Oh, oh là là.
Non, mais soyez pas choqués. Oh. C'est le mot orgasme.
Mais là, je sens que ça monte.
Mais c'est magnifique.
Tiens, alors évidemment, là, on a Wagner.
La chevauchée des Valkyries, mais
voilà,
c'est le plus classique.
L'orgasme est à venir. Hein. Ça sera plus tard. On vous retrouve.
Non, mais je dis pas de conneries. On peut avoir. Un sentiment de plaisir intense en écoutant de la musique. Moi, c'est ce que j'ai.
Mais je le partage totalement avec vous. Tiens, en parlant de partager, à partager, c'était un de vos spectacles sur scène. Je voudrais qu'on écoute cet extrait.
Je suis très, très heureux d'être ici. Très heureux, comme vous avez pu le constater, hein, le titre du spectacle, c'est « À partager ». Alors bon, je vais vous faire des personnages, parce que bon, je ne peux pas faire autrement. Hein. C'est dans mon ADN. Rassurez-vous, tout ce qui est triste et déprimant, c'est dans mon bouquin. Je vous ai gardé le meilleur, le plus drôle. La mort de ma mère, le sida de mon frère, l'AVC de mon père, que de la bonne rigolade.
On rit.
Humour, humour.
Ben voilà, humour, parce que tout cela est vrai.
Tout cela est vrai.
Voilà,
malheureusement, ma maman est décédée, mon frère aussi. On a un bon dossier chez les Semoun du sida. Malheureusement, il était homosexuel. Ça s'est passé en 2001.
Ouais.
Et votre père n'a pas eu d'AVC.
Non, mais contre, il est malade, votre papa.
Il est malade, il a 88 ans. Enfin, ça, c'est pas une maladie, mais il a Alzheimer. Donc, il est dans un EHPAD. Et tiens, j'en profite pour remercier Julien Courbet, les auditeurs d'RTL, parce que j'ai fait un appel, non pas au don, mais à ce qu'on livre du matériel dans son EHPAD à Lyon. Et ça a été entendu et c'est formidable.
C'est vraiment, génial.
Il y a une solidarité incroyable.
On avait relayé cet appel.
Ouais, bon,
ça va votre papa ?
Ça va. Écoutez, incroyable, il a chopé le corona, mais il l'a éliminé.
Oh là là.
Donc c'est complètement fou. Et donc, il est un peu largué, comme tous les gens qui ont Alzheimer. C'est-à-dire qu'il ne sait pas trop pourquoi on n'est pas venu le voir depuis 2 mois avec ma sœur. Donc ça a été très dur pour lui, parce qu'il il pensait qu'on l'avait abandonné. Donc, mais ça va.
Cet extrait, ça me fait penser à des proches qui faisaient rire avec son cancer, finalement, avec son propre cancer.
Comme j'ai dit, on fait pas rire avec le bonheur, hein, c'est pas possible. Et c'est bien, c'est sain pour un humoriste d'avoir de l'autodérision, c'est même indispensable. Ceux qui n'ont plus d'autodérision, ils sont morts. Ils ont plus d'humour, ils savent plus ce que c'est. Et ils sont largués. Donc il faut garder ça.
Ça, c'est dit, et c'est pour tous les autres. On marque
c'est
une
pour
pause.
Tous les autres.
On a une bonne surprise pour vous. Je suis
génial.
Sûr que ça va vous plaire. Dans un instant, sur RTL.
C'est Dieudonné, c'est ça?
Oui, comment vous l'avez deviné?
Le journal inattendu d'Elie Semoun avec Vincent Parisot sur RTL. Grand Prix.
Tiens.
RTL, le journal inattendu.
Elie Semoun, Vincent Parisot.
On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. on regardait les autres gens. Comme ils dépensaient leur argent, nous, il fallait faire attention. Quand on avait payé le prix d'une location.
Voilà, évidemment, non. On voudrait l'entendre jusqu'au bout.
Ah oui, c'est magnifique.
Avant d'accueillir votre invité, un invité surprise. On écoutait Michel Jonas. C'est votre choix, un de vos choix musicaux, Les Vacances au bord de la mer.
Bah oui, c'est une chanson magnifique, un peu nostalgique, que j'écoutais quand j'étais ado. Et puis j'ai vraiment une grande passion pour Michel Jonas. J'ai adoré tous ses albums.
C'est vrai.
Tous ses albums, vraiment.
Il est sympa, Jonas.
Je sais pas si. Oh, il est super gentil. Il m'a fait l'honneur de m'inviter chez lui parce que je voulais lui proposer de mettre en musique certaines de mes chansons. Ça s'est pas fait, mais ouais. Ça nous a permis de faire connaissance.
Bonjour Michel gentil. Jonas.
Oh, c'est
bonjour.
Oui. Ah, il est là. Mais il est toujours là. Ça, c'est gentil.
Il est toujours là dans les bons coups. Bonjour Michel Jonas.
Super.
Merci d'être avec
nous.
Vous l'avez conseillé donc pour ses chansons, pour son album ?
Non, il se débrouille très bien tout seul. Bonjour Élie, je suis content
bonjour
de
t'entendre. Bonjour Michel, merci. C'est la deuxième fois qu'il est là. Parce ouais. que j'avais fait une émission qui s'appelle La Chanson Secrète. Et j'avais choisi cette chanson. Ouais. Et il avait été là pour me la chanter. Et il est encore là aujourd'hui. C'est super gentil, vraiment je suis touché. Hein.
Et ce qui est vraiment bien, c'est que surtout on va pouvoir vous retrouver sur scène. Vous aviez commencé à partir en tournée avec votre dernier album. La Méouche de Rhône la Durance.
Oui.
Tournée interrompue évidemment par le virus. Mais je crois que les concerts commencent à être reprogrammés, c'est ça, Michel ?
On a donc pu trouver des dates de remplacement à partir de septembre, comme par exemple le Palais des Sports à Paris, etc. Mais est-ce qu'on est sûr aujourd'hui qu'on va pouvoir réouvrir les salles de spectacle, les théâtres, etc. pour les concerts ? On n'en sait rien encore, mais enfin, en tout cas, on a nos dates.
On a des dates
bloquées. Je voulais juste dire quelque chose par rapport à Élie.
Oui.
C'est que il est. Moi, je l'adore. Je l'adore,
aussi.
Mais c'est vrai, c'est pas du blabla. C'est-à-dire que je trouve que ces sketchs sont vraiment très drôle, mais pas seulement. D'abord, ils sont toujours très respectueux, ils tombent jamais dans la facilité de faire rire aux dépens des autres, et ça c'est quand même très très rare. Ils se moquent, mais c'est toujours pour dénoncer ce qui mérite de l'être, la haine ou le racisme ou l'égoïsme ou l'hypocrisie, voyez, la bêtise, la méchanceté, tout ça, ça fait vraiment du bien. Et puis je sens chez lui un amour de l'autre, une empathie, c'est pour ça que voilà, j'aime bien cet homme.
Ben moi je souscris à 100% ce que vous venez
beaucoup.
De dire, et puis j'ai vraiment hâte, alors je sais pas si ça sera possible, hein, mais de vous voir donc le 12
J'espère.
Septembre au Palais des Sports. Il y aura le 27 également à Rouen, le 13 décembre à Angers. Bon voilà, des dates qui sont déjà annoncées et on va pouvoir vibrer avec vos tubes.
Et bien.
Salut Pépita, où est le shérif que je la sonne?
Belle marquise, mais c'est une belle baronne. Mille et mille et mille et mille millions, personne joueur de coup. On est les joueurs de coup. Rappelle-toi du premier jour, ces deux nuages qui formaient comme deux cœurs enlacés.
Voilà tous ces tubes de Jonas, et notamment là, ce qu'on entend traverser la mer à la nage. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Ali ?
Et je dis, il y en a d'autres. Son album, Les années 80 commencent.
Ouais.
Il est fantastique.
Vous allez aller le voir alors, Michel Jonas, sur scène.
Bien sûr, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mais bien sûr.
Bon.
J'espère que ça va recommencer, que les gens vont pouvoir retourner voir les spectacles.
Vous y croyez, Michel, à la réouverture des salles ?
Bah, c'est-à-dire qu'il y a un tel besoin de spectacles chez, oui. chez les gens. Alors, ce qu'on se demande, c'est dans quelles circonstances. C'est-à-dire que si on met un siège sur deux et si moi je suis obligé de chanter avec un masque, ça ne va pas être facile.
Non. Mais par exemple, peut-être faire deux spectacles deux soirs de suite, enfin le même soir. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, alors le problème, c'est que c'est comme pour les restaurants ou pour les bars. C'est-à-dire que si on loue, nous, on est producteurs, si on loue une salle et qu'il y a la moitié du public par raison de précaution, alors il faudrait qu'on puisse la louer moitié prix, vous voyez.
C'est
des choses comme ça. Mais en tout cas, moi, j'ai un manque, là, physique, et je pense que Élie, c'est la même chose.
C'est pareil.
C'est terrible, c'est horrible. Ça nous manque physiquement d'être sur scène et d'être avec les gens, et ça nous manque d'embrasser nos amis, nos copains, notre famille et tout. Alors, c'est le déconfinement, mais on le vit pas encore complètement, ça, cette chose-là. Hein, c'est vrai. Et c'est le truc qui commence vraiment à peser.
On a tous des fourmis dans les jambes.
C'est presque une déprime chez mes copains artistes, quand on se téléphone. On a envie de jouer, on a envie de faire rire les gens, on a envie de retourner en tournée, on n'en peut plus.
Vivement. Ouais. Merci beaucoup Michel Jonas.
Merci Michel.
Merci Élie Semoun.
Merci à vous.
Et on peut voir du Cobu 3 en VOD évidemment. Et à très vite sur scène, on vous attend.
Merci beaucoup.
Dans un instant sur RTL, ce sera Confidentiel avec Jean-Alphonse Richard et Lady Gaga.
RTL. Le journal inattendu.